France Inter.
C'est la bande originale qui doit vous avec Leïla Kadouchoudaghi, avec Zad El Moitié, Mandy Fontaine et Ma Beaujean. Tanguy Bassureau, Aldela, Daniel Morin.
Bonjour, Mélodie.
Et nos invités, Lola Lafont et Pénélope Bagieu.
Bravo.
Peut-être on finit le générique à un moment.
France Inter, la bande originale. Leïla Kadour et Nagui.
Et bonjour.
C'est un jour férié. Soyez bienvenue, Pénélope, Lola. Ravie de vous accueillir avec cette nuit retrouvée. Qui est à l'origine des deux, d'ailleurs, de cette. Est-ce que c'est la romancière ou la dessinatrice
qui a commencé? De quoi?
Du projet, de la nuit retrouvée. Hop. Ah, vous regardez, vous êtes dépité par cette première question.
C'est
abattu.
C'est conjoint.
C'est nous, c'est un très long apéro.
Ok, donc vous êtes dit, et si on travaillait ensemble, et de là est née l'idée, c'est ça?
Oui, j'ai dit à Lola, si tu fais une BD, appelle-moi. Si tu veux faire une BD, appelle-moi.
Oh, okay. Et quelle riche idée de vous associer toutes les deux, j'espère que ça va continuer.
Ça dépend de l'apéro.
Avec ce voyage dans le temps, c'est extrêmement agréable. Ça se lit, c'est un bonbon. C'est un bonbon parce que ça nous. D'abord, on a envie d'en prendre un deuxième justement quand on a fini le premier. Et puis ça nous renvoie aussi à nos familles, à nos histoires de famille.
À ce qu'on se raconte.
À nos grands-mères.
Oui.
Et vous l'appelez comment déjà dans la bande dessinée?
Sa mère. Mamounette.
La maman.
Mais mère et grand-mère. Elle n'est pas grand-mère. Elle n'est pas du tout grand-mère.
Non, ce sont ses trois enfants, mais ils sont grands. Ils sont grands et en fait, c'est ce dialogue qui va
se
tisser avec eux.
Il y a des renvois aussi avec l'enfance.
Oui.
Et qui est surnommée Mamounette, justement. Alors, comment est-ce qu'il y a des surnoms autour de la table de maman ou de grand-mère, peu importe. Des surnoms que vous avez donnés.
Non, c'est très classique, c'est maman.
Et grand-mère alors?
Et ma grand-mère, c'est mamie.
Waouh!
Ah ouais, ok.
Pardon. Wow. Et si je suis pas contente sur ma mère, alors c'est Evelyne.
Généralement, c'est des parents qui font ça. Ouais, c'est comme le prénom pareil, est donné pour les enfants.
Elle t'autorise à l'appeler par son prénom.
Okay.
Ouais, t'es vivante encore.
Mélodie.
Moi, maman, c'est Mamoun.
Ah,
et
voilà.
Et ma grand-mère, c'est René Coty, parce qu'elle s'appelait René.
J'ai cru que c'était une vraie info.
J'adore l'idée. Ma grand-mère, c'est René Coty. Et mon grand-père, c'est Charles de Gaulle.
Ça explique tellement de choses.
Et Ma Beaujean.
Moi, j'aime bien appeler tous les membres de ma famille par leur prénom. Et notamment mes parents, j'aime bien dire Gilou et Nat.
Ah ouais?
C'est top, Gilou et Nat, c'est marrant. Je sais pas, j'aime bien. Ouais.
C'est très bien.
Fin d'anecdote.
Leïla,
la baronne.
La chef.
Non,
madame.
Mouimti en arabe. Mouimti, c'est pour
et,
dire maman.
Et ta grand-mère, tu avais.
Je l'ai pas connue.
Tu as pas donné de prénom, de surnom.
J'en avais, mais je l'ai pas connue.
Tanguy.
Moi, c'est père et mère, et on se vous voit.
Voilà quelqu'un que j'ai
déjà.
C'est chaleureux.
Au-delà.
Moi, c'est mon fils. Ma mère s'appelle Agnès, tout le monde l'appelle Agneau, donc il dit pour Mani Agneau. Il l'a appelé Mano, voilà, il s'est devenu Mano pour
même, Mano, c'est joli, Mano. Ouais, c'est joli. Et la tribu de Tarana.
Exactement.
Toi, Daniel Morin.
Moi, ma mère, je l'appelle, je fais « Oh !» Et
le respect, et Daniel,
comprend,
le respect.
Et elle comprend.
Ouais, c'est dingue.
T'étais avec Mamou, hein, c'est ça?
Mamoun.
Moi, c'était Mamine.
Ah, c'est
ma grand-mère. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un côté câlin dans ce surnom. Alors, comment c'est fait et comment l'idée a Ah oui, c'est vrai, vous, dans la vraie vie, Pénélope.
Et votre maman ou grand-mère. Je l'appelais Mamiette.
Mamiette,
c'est mignon.
Ça se croque. Et vous, Lola?
Rien d'original.
Mamie,
avec son prénom, Ida.
Alors, est-ce que vous êtes chacun déjà projeté en comment j'aimerais que l'on m'appelle quand je serai grand-père ou grand-mère?
Non,
parce que c'est généralement ce sont les grand-mères qui choisissent en disant je veux pas que tu m'appelles mémé, je veux que tu m'appelles quoi.
Oui, mais après c'est transformé par les enfants qui le disent à leur sauce.
C'est vrai.
En général,
il faut que ça sonne.
Appelez-moi nana, et puis les petits enfants ils font hop et ils font leur propre
ils font un peu naze.
Je m'y mets un geste de désinvolture.
Désinvolture.
Non mais et alors vous aimeriez qu'on vous appelle comment, Pénélope? Mamie,
c'est je vous vois et que... Non, je sais pas, j'en sais rien.
Mamie,
j'ai du mal à me projeter dans l'idée d'être mère.
On va évoquer en tout cas cette nuit retrouvée, ces secrets de famille, ces histoires d'enfance revisitées et d'une fille qui a une confidence avec sa maman,
c'est
quoi,
ça,
qui
se retrouve. Un soir, ouais. Une discussion, ouais. Un souvenir,
même,
et puis de
même
ce
on
souvenir.
Fait une clope alors qu'elle aime pas qu'elle
voilà,
fume la clope.
Ouais, du souvenir, comme ça, la confidence arrive.
Lola Lafont et Pénélope Bagieux, quand une grande autrice rencontre une grande dessinatrice et autrice aussi. Bref, cette rencontre-là donne une formidable bande dessinée, La Nuit retrouvée chez Gallimard Bande Dessinée. D'abord, voici Hold de la fan de Lola et de Pénélope.
Mais oui. Vous recevoir ici, bah, c'est merveilleux. Je dois quand même vous avouer que c'est une copine. Elle est cool, elle est marrante. Et si Joséphine, je suis fan de Lola Lafont. Une femme engagée pour les femmes de plein de façons. Elle chante, elle compose, elle écrit, c'est déjà très bien. Et en plus, elle a promis de s'occuper de Daniel Morin. Et vous êtes là ensemble pour la nuit retrouvée. Qui parle d'une femme seule avec trois enfants l'été. C'est à peu près ce qu'a subi la mienne, je crois. Mais en plus, il fallait qu'elle s'occupe de moi. Yes. Oh, je suis fan de Pénélope, l'autrice. Je suis fan de Pénélope, la dessinatrice. Je suis fan de Pénélope, la comédienne de mon clip. Je suis fan de Pénélope, la chanteuse. Et d'ailleurs, j'ai une surprise pour Pénélope aujourd'hui. Ah, je vous demande de l'applaudir car elle n'est pas au courant. Il faut l'encourager.
Arrête.
C'est Pénélope qui a sorti un single magnifique avec Wax, dont elle va nous faire un petit extrait. Voilà, tout de suite.
Ah non, ça va pas la tête. Non.
Si vous l'encouragez.
Mais
si.
C'est quoi ce traquenard?
Non,
de question.
Le bourbier. Non.
Ah non, la pauvre, la pauvre.
Ah, c'est pas cool. C'est un peu un cauchemar qui se réalise.
De là, il est pas si gentil.
Ouais.
Tu la chantes très bien, vas-y.
Mais non, il n'y a aucun intérêt à ce que je la chante.
Vas-y, vas-y.
Si.
Un tout petit extrait.
Chante là.
Non.
Ok, alors tu m'accompagnes, d'accord?
Allez, vas-y.
Tu fais le doigt. When I'm with you, baby, I got out of my hand. I just can't get enough. All the things you do to me and everything you said. I just can't get enough. We sleep and slide and we fall in love. And just can't seem to get enough. Oh, je suis fan de vous, Pénélope et Lola. Il vous reste une phrase de chanson pour être fan de moi. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Merci. Et Pénélope qui a chanté malgré ce grand moment de solitude.
Cette prise d'otage.
Oui, c'est vrai.
Un peu une prise d'otage. Et Oldela va nous éclairer pour nous parler de la sortie de son dernier album.
Vendredi.
C'est ça.
Sera vendredi, nouvel album.
Mais chante-le maintenant.
Je tiens quand même juste à signaler que j'avais quand même demandé à Wax de venir faire la surprise et qu'il m'a dit non mais de toute façon faites-le, elle va adorer.
Si bien.
Ah, tu balances en plus.
Mais bien sûr, mais je l'ai eu quand même pour demander et il a dit mais vas-y, je vous écouterai.
On en reparlera.
Mais
Après,
on va amener des araignées.
Oui, c'est clair.
Et après, tu vas devoir te mettre tout nu.
Et il y aura un école autour de votre. Voilà. Et maintenant, c'est autour de Lola. C'est ça qu'on n'a pas dit.
Ah,
Lola. Mais Lola, moi, elle chante vraiment. Ouais. Ça, c'est très vieux.
Bah oui, mais c'est fou. Je prends les sons, les deux chantent, donc Lola Lafont chantait Mon âme et Pénélope Bagieux avec Wax. Et il est vachement bien le nouvel album de Wax, d'ailleurs. Super.
Plein de jolies choses.
Il y a un titre avec Jane aussi qui est réussi. Vous l'avez écouté, le dernier album de Wax ou non?
Le prochain?
Ouais.
Celui qui sort en décembre?
Ouais.
Bah oui.
C'est ça, non, il y a un titre avec Jane, moi j'ai entendu différents extraits qui sont puissants, comme on dit. Donc parlons de cette BD qui est sortie début novembre, La Nuit retrouvée, avec Avec des ambiances aussi bien ensoleillées que qu'effrayantes dans la nuit dans les forêts. C'est-à-dire vous, on passe
dans les
vraiment...
Landes, dans les Landes.
Oui, mais on passe de l'ombre à la lumière. Ouais. Vraiment, c'est comme la révélation des secrets de famille.
Oui, et puis c'est une forêt un peu particulière parce que c'était quelque chose dont Lola avait envie pour l'histoire, c'était que cette forêt soit un endroit où l'héroïne se transforme. Peut-être c'est
mieux que c'est toi qui la raconte. En fait, la forêt, elle n'est pas effrayante pour Hélène, pour l'héroïne, c'est que la forêt, au contraire, elle s'y reconstitue, c'est son domaine, elle promène son chien et c'est ce genre de moment où on est soi. En fait, elle est elle-même dans la nuit, dans la forêt. Elle est avec son chien, elle est à la fois adolescente et adulte, elle a tous les âges, elle est elle-même.
Il y a quand même évidemment une formidable histoire et qui mène à un secret de famille, à une révélation ou en tout cas à une complicité,
ouais.
Plus qu'un secret de famille qui va choquer et bouleverser les cartes, c'est une formidable histoire de complicité.
Oui, je trouve, hein, c'est vraiment comment, quand on devient jeune adulte, on se rend compte, comme tu dis souvent, Pénélope, que nos parents sont aussi des personnes, avec des histoires d'amour, avec des audaces, avec des aventures.
Qu'on n'ose pas imaginer, parce que c'est pas notre rôle d'enfant.
Ouais. Ouais. Ouais, qu'on questionne pas d'ailleurs, même quand on est adulte, comme si on voulait pas vraiment savoir ce qui avait précédé nos parents, en fait. Le couple parental est un peu intouchable, en fait. Je sais pas si vous avez essayé, vous de demander à vos parents respectifs des choses sur leur passé.
Et je trouve qu'on n'a pas très envie de savoir.
Non, on veut pas, non.
Ouais, ou pas. Ou peut-être bien plus tard sur son lit de mort, mais pas très, très
c'est vrai qu'il y a un truc gênant. Oui.
Mais j'ai toujours refusé de voir les vidéos, moi, en tout cas. Refusé, hein, catégoriquement.
Ils t'ont pas mal proposé.
C'était muet pour toi.
Bah ouais, mais c'était parlant quand même.
Non, mais alors, d'autant que vous installez le personnage avec justement un manque d'audace, avec un côté toujours à vouloir tout faire précisément, tout bien rangé, très bien ordonné, avant qu'il y ait un lâcher-prise.
Il y a vraiment cette image des mères aussi. Vraiment,
ouais, c'est la daronne.
C'est vraiment la daronne. On n'imagine pas qu'elle a des désirs, qu'elle peut vraiment prendre d'autres chemins. De toute façon, dans les familles, on est vraiment enfermé dans son rôle. Et on va apprendre qu'elle en est sortie.
Ouais, c'est ça, les sorties de route, en plus dans une soirée particulière, une soirée d'anniversaire, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans un moment de commémoration. On imagine qu'on est quoi, la cinquantaine, c'est ça le...
Cinquante et quelques, ouais.
J'aime bien le
non, mais plus, elle a la retraite.
Ouais. Hein. Ben, ça dépend, peut-être qu'elle a été retraitée
elle
jeune.
Elle est enseignante, bon, certes elle a trois enfants, donc elle a pu partir plutôt à la retraite. Je fais les petits calculs.
Connaisseuses.
J'ai été prof, et j'ai pas fait beaucoup d'enfants.
Mais tu as sept enfants.
Mais c'est ça. Mais oui, on imagine qu'on est à ce moment-là de la vie où on peut commencer à raconter des choses, peut-être.
En tout cas, elle a l'âge qu'on ne montre pas trop en général dans la fiction.
C'est vrai.
Voilà.
Encore
l'âge des personnages qui n'existent pas trop.
C'était ça qui nous tenait à cœur aussi, c'est de faire d'une femme de, je sais pas, 50, 60 ans, une héroïne de BD et une héroïne tout court.
Ouais, non, mais alors, ce qui fonctionne, c'est qu'il y a beaucoup d'humour et d'humeur. Il y a des scènes dans lesquelles on peut se projeter comme quelle boîte de jeu on va prendre. Est-ce qu'on joue à Tabou, à Pictionary? Est-ce qu'on retrouve les vieilles fiches dans un Pictionary en disant « Donc ça, c'était une raquette. On est d'accord. » Avec beaucoup d'autodérision dans le dessin naïf que vous illustrez. Est-ce que vous avez pioché chacune dans des souvenirs personnels de ce... La scène, par exemple, des boîtes de jeu que l'on sort en disant « Qu'est-ce qu'on fait? À quoi on joue tous ensemble ?»
Je pense que... C'est du vécu. Alors, plus globalement, les Landes et la Côte Basque, c'est un endroit qui a beaucoup de sens, et pour Lola et pour moi, parce qu'on y a passé chacune une partie de notre enfance et de notre adolescence. Donc moi, j'étais très attentive à rendre la maison proche des souvenirs des souvenirs que j'ai de la maison au Pays Basque de mes grands-parents.
D'accord.
Mon grand-père était basque. Et pour ce qui est des jeux de société, oui, par exemple, le fait qu'ils jouent à hôtel, ça, c'est vraiment très personnel. C'est mon jeu de société préféré. Donc, je voulais placer un hôtel et un petit Taj Mahal dans la BD. C'était essentiel.
Ah, Tabou, c'est quand même génial.
Ah, Tabou, quel enfer, ce jeu.
Ah non, mais c'est génial.
Le buzzer, ce son est épouvantable.
On est d'accord.
D'ailleurs, le nouveau hôtel est beaucoup moins bien que l'ancien.
Oui.
Pardon.
Mais merci de balancer le pavé dans la marque. Voilà. Je suis bien d'accord.
Ça dénonce ce matin.
Les bâtiments sont très laids. Je suis bien d'accord.
On est d'accord.
Et il n'y a pas que les jeux de société, il y a le surf aussi.
Ouais.
Voilà. Ça, c'est vous plutôt, Lola ?
C'est moi, oui, j'avoue.
Alors vous, oui, qu'est-ce que vous avez mis de vous dans cette série, dans cette BD, pardon?
Alors il y a des choses que je ne peux pas dire parce que sinon je vais spoiler tout.
Ah ok, d'accord.
Mais qu'est-ce que j'ai mis de moi? Ben d'abord on met toujours.
Pardon, vous voulez dire que le secret de.
Ah là là, je ne dis rien.
Ah, oui. Bah vous dites, je ne veux pas révéler sinon je spoil.
Non,
y a
non,
un
mais
truc
je veux dire dans
moi,
des détails, je dis pas tout en général, d'accord, mais okay. C'est. Qu'est-ce que j'ai mis? Ben, je sais pas, je pense que quand on écrit une fiction, on met toujours de soi et que ça n'a pas vraiment d'importance, en fait. C'est-à-dire que les lecteurs et les lectrices peuvent. L'idée, c'est quand même que ça soit l'histoire de tout le monde.
Oui, forcément... mais justement, mais ce qu'il y a d'extraordinaire ou de très intime, quand ça devient universel, ça touche encore plus. Y compris d'ailleurs le secret de savoir ce que sa maman pouvait être quand elle était jeune fille. Ou,
je pense que ce qui est universel, c'est de contenir un souvenir extrêmement émouvant en soi et que parfois personne ne connaît parce que parfois c'est un tout petit événement et qu'en réalité, quand même, ça a changé toute votre vie.
Ouais.
C'est ça qui est.
Oui, peut-être que. Et que ses parents ne sont pas que des autorités, des règles, des cadres, mais qu'ils peuvent, heureusement, avoir un lâcher-prise et
Les mères. Surtout parce que je pense que pour les mères, quel est l'espace qu'on leur laisse, quoi. C'est ça aussi. Hein,
ou que l'on connaît.
Qu'on connaît, puis qu'on leur autorise.
En l'occurrence. Chez Gallimard, donc la nuit retrouvée, Lola Lafont et Pénélope Bageux se retrouvent ensemble et c'est une réussite. Voici Lisa Delmoitier. Lisa, vous n'auriez pas fait une bande dessinée comme ça?
Oh là là, non.
Ben non, c'est pas votre genre.
Quel manque d'originalité. Encore une BD avec pour héroïne une mère de famille de 50 ans. Est-ce qu'on n'avait pas déjà assez avec...
Non, mais il y a celle...
Oui,
celle-là.
Merci, attendez, il doit y en avoir. Ah. J'ai une très mauvaise mémoire, mais il y a... Astérix, c'est pas une mère de famille. Une mère de famille n'a le temps d'être pote avec un livreur de menhir. Tintin non plus. Non, aucune mère de famille n'a le temps d'envahir le Congo. Alors, on croit que les femmes sont des meilleures personnes que les hommes, mais non, l'Afrique ne se rend juste pas compte qu'elle n'a jamais qu'à une machine à laver de se faire coloniser. Spirou non plus, Lucky Luke non plus. Ben non, il n'y a que dalle. Enfin si, il y a bien eu les femmes en blanc sur des infirmières. Putain, la seule fois où on a des héroïnes de BD femmes, c'est encore pour vous frotter le cul, quoi. Non, c'est l'enfer, on va jamais s'en sortir. Hein. Évidemment, il y a la Schtroumpfette, mais ça en est devenu une exception, tellement, tellement elle est rare. Vous imaginez? On a d'abord pensé à faire un village entier de bonhommes bleus, avant de dessiner nos darons, quand même. Enfin, Garfield, 79 numéros sur un chat qui bouffe des lasagnes, et avant de se dire, mais attends... Qui est-ce qui les cuisine? Bon, en vrai, ce sont sûrement des lasagnes surgelées. Je doute que la maman de Garfield ait le temps de les cuisiner maison. T'as pas le temps, avec ta petite béchamel et ta petite sauce tomate, d'empiler des couches quand t'es occupé de les changer. Voilà, je suis l'image de la lasagne pour tout le monde. Du moins, la version épinard ricotta, dont la ressemblance est quand même confondante. Mais, parce que c'est de ça dont parle votre bande dessinée, Lola et Pénélope, du sacrifice que font nos mères, sacrifice qui commence avant notre naissance d'ailleurs. Hein. Moi, je trouve ça fou que ma mère m'adresse encore la parole, sachant qu'elle a dû passer 9 mois sans Negroni.
C'est vrai.
Après, je lui ai demandé, elle s'en est pas passée.
Ce qui explique beaucoup de choses.
Il y a des sacrifices qu'on impose à nos mères par le simple fait d'exister. Il y a aussi les sacrifices que nos mères s'imposent elles-mêmes, parce qu'on s'empêche tous, un peu chacun dans notre famille. Hein. La famille définit un peu un rôle pour nous tous. La famille, c'est comme une énorme pièce de théâtre où, s'il y a un côté jardin, de quoi tu te plains déjà? Parce que je parle de la mère, mais le rôle de la fille est intéressant aussi dans la BD. La fille à qui la maman confie ses souvenirs de jeunesse. Chaque enfant a un rôle et j'ai l'impression que ce sont souvent les filles qui endossent un peu le rôle de la protectrice et de la confidente de la maman. Après, je me trompe peut-être. Mais ça m'étonnerait. Parce que j'ai tout le temps raison.
Oui, c'est vrai.
Enfin, sauf quand j'ai tort. Comme la fois où j'avais dit que j'avais tout le temps raison. Mais non. Non, cela dit, tu peux être la fille la plus responsable de ta famille. T'as quand même toujours des attentes envers ta mère. Et c'est d'ailleurs sûrement pour ça que la mère se confie, mais jamais quand même à 100%. Moi, pas plus tard que ce week-end, alors que j'ai 33 ans, j'ai posé une question à ma mère. Et est-ce que je lui ai demandé un truc intime sur sa jeunesse? Non. Je l'ai appelée, j'ai dit « Maman, comment on nettoie les chiottes ?» Je veux dire comment on les nettoie à fond. Hein. J'ai rassuré vous, ça fait pas 33 ans que je n'ai pas tiré la chasse. Pour moi, tas de merde, ça reste quand même juste un jeu de cartes. La partie condamnée de la salle de bain. Oui. Non, mais je voulais savoir comment on peut avoir un peu la faïence de ces tâches qui se forment avec les. C'est bien très pratique, hein, cette chronique. Oui. Oui. Mais parce que voilà, elles sont là et elles ne parlent pas. Et elle m'a dit, Lisa, tu dois utiliser de l'esprit de sel. Hein? Ce à quoi j'ai répondu non, bien sûr, je ne crois pas aux esprits. Non, mais apparemment, non seulement d'après Nagui, mon gigot a des émotions, mais le sel a un esprit. Et c'est un truc que tu trouves dans les drogueries, tu mets ça dans les chiottes, ça décape tout.
Ah bon?
Et voilà. Si j'ai posé ça à ma mère, j'ai pas demandé de choses plus intimes, mais votre bande dessinée, ben voilà, elle m'a donné envie d'en savoir plus sur ma mère. Donc je lui ai demandé si elle a eu une affaire, je sais pas, quelque chose, il y a 20 ans. Alors oui, ce sont des conseils comme ça qu'on se donne dans ma famille et c'est pas grave. Moi, je l'aime comme ça. Cela dit, je souhaite quand même à ma maman et à toutes les autres de se faire imposer peut-être un petit peu moins de limites, de s'en imposer elle-même moins aussi. Et puis moi, je dois vous laisser, je crois que l'esprit de mon sel est dans la pièce.
Bravo. Merci. La nuit retrouvée, c'est justement la nuit où elle se reconstruit, où elle se retrouve, où elle se confie également sur la terrasse de cette maison dans les Landes. Lola Lafont et Pénélope Bageux signent cette bande dessinée, ce roman illustré, parce que c'est une véritable histoire avec laquelle on se promène, avec aussi l'ordinaire, et on va gratter pour trouver quelque chose d'incroyable, mais de normal. Même de se dire, elle a été jeune fille, cette maman, elle a le droit aussi à l'extraordinaire, ou en tout cas
à ses
rêveries, ouais, c'est ça, à une vie sans enfant, sans que ce soit elle a le droit à sa sexualité. Non,
oui,
mais c'est,
oui.
Non, mais
ah, c'est une question, bien sûr.
Non, c'est pas une question, c'est aussi la volonté de le mettre en avant, de se dire, évidemment, c'est une femme qui a une sexualité, l'enfant ne l'imagine jamais, mais c'est la mère qui ressent le besoin aussi de le dire, de le partager.
Et encore, elle raconte pas tout. On voit que même là, alors que sa fille est quand même adulte, elle ne dit pas tout, parce qu'on voit les deux versions, on voit ce qu'elle a vraiment vécu et ce qu'elle ose raconter. Et on ne sait pas ce qu'elle préserve, finalement.
Et ce qu'elle préserve, ou pourquoi elle le préserve,
ouais.
C'est une pudeur, tout simplement, non?
Peut-être une pudeur.
Ouais.
Ou la crainte. Et puis en face aussi, sa fille, au début, n'a pas très envie d'écouter l'histoire.
Ouais.
C'est-à-dire qu'elle essaye quand même de caler son histoire à plusieurs reprises, auprès de ses trois enfants. Il y en a deux qui s'en tapent et qui vont se coucher. Et celle qui reste, elle est à moitié sur son téléphone, elle écoute d'une oreille. Elle ne prend pas la mesure tout de suite du fait que sa mère est en train d'essayer de lui dire quelque chose. Parce qu'effectivement, sa mère ne porte pas un toast sur son verre en disant j'ai quelque chose à vous raconter. Donc moi je trouve que c'est ça aussi qui est chouette dans cette histoire, c'est cette façon dont le chemin doit se faire des deux côtés, c'est-à-dire il faut le dire, mais il faut écouter en face aussi.
Et puis c'est joli de se dire qu'il y a quelque chose qui peut être très important pour soi et qui ne l'est pas pour les autres, qui est constitutif de soi et pas pour les autres, donc on peut mal recevoir l'inattention, mais en fait c'est simplement parce que ça compte pas tant que ça, peut-être.
Ouais, et puis il y a toutes les questions de communication au sein d'une famille aussi, pas uniquement sur la sexualité, mais sur la vie, l'écoute, les tâches ménagères, qui fait quoi, qui prépare le repas, qui choisit le jeu.
C'est la scène de cuisine d'ouverture qui est chouette,
dingue, cette scène.
Qui est très virevoltante en fait, où on voit les relations qui se tissent déjà là.
Ouais, où la daronne est très calme, elle, dans son coin, où elle veut tout faire à la place, parce qu'elle le fait mieux peut-être aussi.
Parce qu'elle est dans un rôle qu'elle s'est attribué et qu'on lui a attribué.
Et dans laquelle on l'a installée aussi, c'est ça.
Tout à fait, et qu'elle est toujours celle. Alors, il y a les petites taquineries des enfants qui sont des taquineries, mais finalement, on peut imaginer que ça peut peser un peu parfois, parce qu'elles sont toujours sur le même sujet, de son manque de courage, de son manque d'audace. Elle est vraiment peut-être un peu à l'étroit. Mm-hmm. On est à l'étroit dans le rôle qu'on nous attribue souvent.
Et puis, c'est un formidable texte et de formidables dessins sur le désir, parce qu'il y a aussi des scènes sans dialogue. Où le désir est en train de naître, où la séduction se joue, où les regards parlent. C'est agréable aussi de faire passer ça en bande dessinée.
C'est assez agréable, oui. Enfin, c'est agréable, et en même temps, c'est un peu l'enjeu de la bande dessinée, c'est de réussir à dire les choses sans qu'on ait besoin de mettre
sans
des
texte.
Gros sous-titres.
Ouais.
Donc, si c'est réussi, tant mieux. Quand
carrément.
Ça rate, moins bien. Mais c'est vrai qu'il y a certaines scènes pour lesquelles c'était très important pour moi que, comme dans la vraie vie, les choses ne soient pas dites.
mais que ça passe par une façon de se tenir les mains, de se remettre une mèche, de regarder, d'être gêné, de baisser les yeux. Donc beaucoup de...
Ou de s'apprêter pour un rendez-vous.
De
aussi.
S'apprêter pour un rendez-vous, quelle mais tenue, ça c'est parce que c'est mes scènes préférées dans les films.
Oui.
Quand les gens se préparent, ils changent de tenue, j'aime tellement le movie montage des différentes tenues. Et puis après, effectivement, des scènes plus proches et plus intimes où c'était encore un autre défi de dessin, mais voilà. Mm.
C'est réussi en tout cas et c'est extrêmement agréable. Avec en toile de fond, c'est vrai, le surf. Là, il y en a bien une des deux qui est plus dingue du surf. Ah oui, c'est Lola.
C'est moi.
Ah oui, direct, ok.
Oui, moi, c'est vrai que c'est un sport que j'aime particulièrement et que j'ai beaucoup, beaucoup regardé, en tout cas dans les championnats du monde et les choses comme ça. Parce
avec
que...
cette attente d'ailleurs aussi que l'on vit. C'est
ce paradoxe en fait de quelque chose qui va très vite. Il ne faut pas rater le moment où il y a une vague et puis on peut attendre des heures. Et ce que j'aime, c'est que c'est un sport qui n'est pas du tout soumis aux impératifs télévisuels par exemple, parce qu'il faudrait que ça dure des heures et des heures, et c'est un peu...
Et pourtant c'est aussi, tellement visuel et spectaculaire.
C'est très visuel, mais il faut aussi ça attendre le moment.
Ça se mérite.
Et elle aussi, elle attend le moment.
C'est très injuste parfois. Quelquefois, on n'a pas la vague et on ne peut rien faire.
Exactement.
C'est pas limité dans le temps quand même, l'attente de la vague?
Oui, c'est 45 minutes quand ils sont deux, mais effectivement, si c'est un moment où il n'y a plus rien...
Et là, il l'a dit, celui qui a été médaille d'or, le français, aux Jeux Olympiques. Oui. Il a dit, j'ai eu la chance, j'ai eu la vague à ce moment-là, les autres n'ont pas eu.
Et puis, il y a les vagues pour les hommes, les vagues pour les femmes. C'est-à-dire qu'il y a aussi du sexisme, même dans les vagues.
Et particulièrement, oui. Mais ça, bon,
dans mais des plages moins accessibles. Il y a vraiment quelque chose de... ça reproduit complètement la société dans laquelle on est. C'est
patriarcale.
Ouais, complètement, parce que évidemment, on a plus de sponsors quand on répond à certains impératifs d'être mignonne, sexy, blonde, et les grandes surfeuses, certaines grandes surfeuses qui sont hyper athlétiques, qui ne correspondent pas à ce truc-là, elles ont moins de sponsors, même si elles gagnent.
C'est
l'image.
Ah oui, oui, oui.
C'est l'image avant tout.
Et ce qu'il y a dans la BD qui est une réalité, c'est que les compétitions sur la grande plage avec beaucoup de monde, à des horaires faciles et avec beaucoup de
stress, c'est pour les mecs,
c'est pour les hommes. Et comme lui dit le charmant monsieur qu'elle rencontre sur la plage, les femmes, c'est ah non, c'est sur la plage là-bas, l'autre bout, c'est plus tard, puis de toute façon on s'en fout parce que c'est moins spectaculaire
et puis c'est compliqué d'y aller,
et puis c'est nul, et puis voilà. Mais bon, elle y va quand même, mais heureusement, mais il n'y aura pas d'histoire
carrément.
C'est vrai que c'est vrai.
La nuit retrouvée, signée Lola Lafont, Pénélope Bagieux, c'est chez Gallimard. Voici Mélodie.
Mélodie n'est pas là aujourd'hui, elle a accepté un autre cachet. Pas un cachet de comédien, non, un cachet en soirée, et ça a mal tourné. À la place, on reçoit Anne-Marie Bougras, bouchère à Noyel dans les Hauts-de-France, et elle va se lancer dans une grande aventure, la présidentielle 2027.
Voilà, bonjour Leïla, salut mes petits pâtés de tête. Ah, regardez-moi qui sont bellos et chicots comme une giclée de veau. Oh, je rangerai bien les os. Surtout toi, le bon vivant, là.
Non,
toi, je t'aime bien, toi. Toi, t'as une poire à te prendre une planche au petit-déj. Retenez-moi, je vais le croquer. Donc, ouais, ça se devine pas, mais moi, je suis bouchère. Et moi, pardon, un petit rototo. Oh, désolé, c'est la ventrèche. Oh. Trempée dans le cas où elle me remonte. Oh, oh oula, c'est un hockey ou je vais dégueuler? Bon, on verra. Alors, ouais, donc, ce qu'elle aime, là, Anne-Marie, c'est trois choses. Premio, j'aime quand on est cash. Hein, pas de langue de pu, moi je dis tout. Moi, ma langue, elle est pas dans ma poche, elle est dans mon frigo et c'est vade de boule le kilo. Ok. Deuxio que j'aime, le pâté de canard fourré au cèpe. Alors, ça vous en touche peut-être une sans faire bouger l'autre, mais moi, ça me fait vibrer le dadon dans la calebasse, si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Si vous voyez pas ce que je veux dire, regardez-y vous-même, ça se passe sous la table, faut se pencher. Par contre, attention, ça sent pas la roche, j'ai dû casser la chaîne du froid ou quelque chose. Et troisio, ce que j'aime bien, c'est la France. Bah ouais, désolé mes douillassos, j'aime mon pays. Alors aïe, je me lance en politoche. Pas trop loin, rassurez-vous, mais vu les glands qui se bousculent au portillon et qui veulent leur miette, j'ai de la marche. Alors je me suis dit trois choses.
Ah, encore trois choses, ouais.
Voilà, premier, les glands, c'est mon affaire. Moi, les glands, je les fais revenir en sauce, puis je les coince au doigt dans un coquelet. 40 minutes à 200, terminé bonsoir, une poire et olibibi. Deuxio, je suis peut-être pas la trancheuse à carpaccio la plus sécure de la boutique. Et j'ai cru comprendre que c'est pas l'objectif. Je vais me battre avec mes tripes, Leïla. C'est du gâchis de tripes, mais je vais le faire. Troisio, j'ai de bons gros rognons. de bonnes grosses burettes de taureau de Camargue. Vous les avez vues sous la table, j'ai les baloches pleines d'idées. Alors je me suis dit, Anne-Marie, ma poche à viande, si Babe le cochon peut devenir berger, pourquoi que tu pourrais pas devenir présidente ?
D'ailleurs, vous pouvez nous le détailler un petit peu, ce programme ?
Bien sûr, alors ma campagne, enfin mon pâté de campagne, comme j'aime à l'appeler, assez simple, je reprends le programme des autres zinzins, mais à ma sauce. Sauce Anne-Marie. Primo, la sécu, plus de sécu, pot de zob. Hein, moi, quand je suis malade, c'est un shot de suce dans la boîte à saucisses et une chaussette shot dans le sif. Hein. C'est comme ça qu'elle fait ma grand-mère Ariel, elle est morte à 98 ans. Enfin, je crois, on n'a plus de nouvelles depuis un moment. Bon. Je baisse les impôts. Ah. Je vois pas pourquoi c'est nous qui opérons les hôpitaux, comme si on n'était pas assez de problèmes de santé comme ça. Et Trimo, dehors les fragiles, hein, les bouffeurs d'élan, les martiens, les chaises à jardin, tout ce qui a des pieds ou des tentacules, qui mange pas de porc et qui connaît pas deux couplets de Vianney, ça dégage. Pareil pour les veggies.
Vous faites référence aux personnes souhaitant ralentir leur consommation de viande, donc.
Et oh, je me casse le trou loulou à découper du grain du matin au soir, et v'là t'y-poc les sensibles, ils veulent des steaks végétaux. Et mon cul, c'est du pâté à croûte, hein? Vous savez ce qu'il y a dans les faux steaks? De la mousse de canapé, des sandales et du sable. Donc moi, j'ai un dicton, tout ce qui se broute pas, tu manges pas. T'as déjà vu un poireau brouté, toi? Bon, moi, j'en ai vu un une fois, mais je m'avais pilonné au chapitre, donc...
Ok. Écoutez, Anne-Marie, on vous souhaite bonne continuation.
Et heureusement qu'il reste des beaux journalistes comme vous et Jean-Jacques Boudin. Bisous, tu me les montreras, le de la...
Merci.
Mélodie Fontaine sur scène, attention, les dernières parisiennes au point virgule les vendredis et samedis à 20h à Saint-Marc en Seine-et-Marne le 14 novembre à Châteauneuf-le-Rouge le 15.
La nuit retrouvée, Lola Lafont rencontre Pénélope Bageux d'abord via les réseaux sociaux avant de se dire « et si on faisait un truc ensemble ?» En partant quand même, parce que vous m'avez dit « non, ça a été un échange toutes les deux, on a travaillé ensemble. » Il y a eu 2-3 feuillets que vous aviez écrits sans savoir...
Ah bah quand même, peut-être un peu plus.
Non, mais au tout début où Où Pénélope s'est dit il y a peut-être quelque chose à développer du synopsis que vous aviez écrit, non ?
C'était une nouvelle, en fait, au départ. Enfin, on a d'abord échangé plusieurs idées, et puis on a travaillé ensemble sur... Voilà, je proposais des bases d'histoire, et puis après on se disait, oui, bon, c'est... Ouais, tiens, pourquoi pas ? Et puis finalement, non. Et c'est un peu toujours comme ça, même quand on travaille toute seule, on hésite entre plusieurs formes, plusieurs... Voilà. Et j'avais cette nouvelle-là, et j'avais...
Qui avait le titre, de La Nuit Retrouvée,
non,
déjà ?
Non, pas du tout. Elle n'avait pas de titre, d'ailleurs.
D'accord.
Et voilà, c'était dans mon ordi.
Mais alors, qu'il y avait quand même qui avait la même fin ?
Elle n'avait pas tout à fait la même fin.
Non plus.
C'était bien. Moins ouvert, c'était moins optimiste.
Ok. Ouais. Il y a ces voyages qui sont très, très visuels entre le passé et le présent. On voit la transformation entre la jeune femme et la maman et la daronne pour lui rajouter ce côté, ce poids que lui donne la société ou qu'elle joue. Finalement, il y a la maman et la femme, c'est-à-dire la maman qui est à sa place. À organiser la soirée d'anniversaire, le repas, le laisse-moi faire, je vais mieux le faire que toi, c'est moi la maman, et je suis une femme avec des désirs, le côté un peu, oui, sage et osé. En fait, on est vraiment dans ces deux regards en permanence.
Bah comme un peu tout le monde, hein, je pense. C'est-à-dire qu'il y a la vision que les gens ont de nous, et puis il y a ce dont on sait, ou qu'on ne sait pas d'ailleurs, qu'on est vraiment capable. Mais c'était important, par exemple, que la même personne soit crédible dans toutes les situations, en l'occurrence le personnage d'Hélène. Et donc il y avait un gros travail dans le dessin sur simplement en changeant de posture, cette personne peut se transformer et être quelqu'un d'autre. Et par exemple...
Mais quand elle se tient aussi.
Quand elle se tient, quand elle part marcher dans la forêt, comme un petit cabri, là, elle saute par-dessus des troncs d'arbres, ça lui fait pas du tout peur, elle est dans la forêt la nuit, ce qui moi me terrifierait, il serait hors de question que j'y aille, mais pour elle, ça n'a pas l'air d'être un problème. Et en ça, elle est surprenante, je trouve, même physiquement. Enfin, c'était ce que j'essayais de faire, en tout cas.
Oui, c'est une planche, moi, qui m'a sauté aux yeux, justement, de voir le corps qui se... Déjà, on voit un peu la jambe, on voit le genou, on voit une sensualité, en fait. C'est comme si, déjà, il y avait un appel, à ce moment-là, dans la forêt, vers la suite de l'histoire. Je trouve que c'est une planche hyper belle.
Merci.
Ouais.
Il y a de la, oui, il y a la forêt, il y a la mer, il y a la nuit, il y a le soleil. Enfin, on joue avec toutes ces.
C'est les Landes.
C'est les Landes.
Non, mais c'est vrai, c'est quand même c'est le propre des Landes.
Le jour et la nuit, ça existe un peu partout.
Oui, mais cette lumière-là,
okay,
sans vouloir faire la chauvine, et
je ne demande qu'à découvrir.
Pour la dessiner, j'y suis allée, ce qui fait partie de mon travail.
La partie difficile du travail.
La partie extrêmement pénible du travail, c'est partir toute seule avec un vélo. Et en plus, c'était comme ça très aventureux avec un vélo et de quoi dessiner. Et il y avait un moment où j'étais au milieu de la forêt pour regarder cette forêt de pins des Landes qui est quand même très particulière parce que quand on est dessinateur ou dessinatrice et qu'on veut faire une forêt, on a tout de suite un peu l'image d'Épinal, des troncs noueux qui partent dans tous les sens de la forêt un peu comme ça, sauvage et folle. Et vraiment, les Landes...
À la Tim Burton qui
peut... Oui, c'est ça, voilà. Donc c'est baroque. Et en fait, les Landes, non, c'est vraiment des avenues de pins parfaitement rectilignes. Et donc, la beauté de cette forêt-là aussi, il faut être dedans pour la percevoir. Et une des choses qui est magnifique, c'est quand j'étais au milieu de la forêt, à croiser les doigts pour pas tomber sur un chasseur, quand même, parce que j'y pensais pendant que je dessinais. J'avais envoyé ma localisation en disant si tu n'as pas de nouvelles dans une heure, c'est qu'on m'a tiré dessus.
Je suis du pâté.
Voilà. On embrasse le plus cher. Et à un moment, il y avait du bruit et je me disais, c'est fou quand même. Même au milieu de la forêt, on entend la route et les voitures, c'est vraiment dégueulasse. Et en fait, non, c'est l'océan. C'est qu'il n'y a quand même que dans les Landes qu'en plein milieu de la forêt, on entend le grondement des vagues comme ça. Quel endroit magnifique, qui est tellement inspirant pour dessiner. Donc j'aurais pu y rester des mois.
Comment vous dessinez la nuit dans la forêt? C'est sur une tablette, sur avec un carnet? Comment vous faites techniquement?
Quand j'étais là-bas,
ouais.
Quand j'étais là-bas, j'ai pris plein de photos et je revenais après dessiner dans ma petite chambre. Et ensuite, je retravaille le dessin. Pour certaines pages, c'est de l'aquarelle. Après, il y a toute une petite cuisine pour trouver à chaque fois ce qui convient le mieux à chaque.
Est-ce que c'est encore organique ou est-ce que la technique moderne, je sais pas comment ça s'appelle, avec les crayons d'ordinateur, les planches, enfin je sais pas.
Les tablettes.
On voit les dessinateurs sur des comme sur des grands bureaux blancs.
Moi, je travaille pas là-dessus.
Je sais pas comment ça s'appelle.
Bon. Pas moi. Enfin, ça m'est arrivé, mais pas là. Là, il y a beaucoup de crayons. Par exemple, j'ai fait un cahier avec toute l'histoire au crayon à papier pour la soumettre à Lola. Pour qu'elle ait un vrai objet comme un livre à lire qui salit les mains, qui est un vrai objet au crayon dans lequel on puisse encore changer des choses, sur lequel on puisse intervenir. Moi, j'arrive pas à me passer de cette étape-là, de toute façon, de l'étape du crayonné. Et ensuite, il y a de la peinture aussi.
Et les allers-retours des histoires entre vous, les deux devaient être convaincus de la progression de l'histoire. Comment ça fonctionnait en termes d'idées, en tout cas, ou de propositions, Lola?
Je pense que ce qui a été vraiment très agréable et que d'une certaine façon, c'est aussi dans le livre, enfin dans la BD, c'est cette confiance mutuelle qui fait qu'il n'y a pas eu de
débat,
de rapport de force.
Si l'une apporte une idée, l'autre la suit.
Voilà, il y a la trame de l'histoire et puis moi j'ai jamais eu l'impression, par exemple, j'ai l'impression que tout y est de l'histoire et donc qu'il n'y a jamais de frustration et au contraire, évidemment, j'avais l'impression que tout est développé, augmenté autrement et je pense que ça, voilà, c'est aussi dans l'histoire.
Il y a de la musique. Bien sûr, bien sûr.
Je crois qu'on peut caser les L5. Ouais,
nous allons évoquer justement l'intimité de nos parents. Doit-on tout connaître de la vie de nos parents avec Déborah Schumann-Antonio qui est thérapeute conjugale et familiale? Si elle est invitée, elle viendra en tout cas. On en parle dans quelques instants. Mais la musique, on vous a entendu chanter, vous Lola, avec Mon âme. Vous Pénélope avec Wax. Et vous écoutiez par exemple dans les années 80, Lola l'a fait écouter. Toriamos. Musique très érotique, c'est elle-même qui la définissait comme ça.
Ouais, et puis finalement, maintenant je me dis que le texte correspond bien aussi à la nuit retrouvée, c'est pourquoi on se crucifie soi-même, quoi. Hélène, arrête de te crucifier.
Dans ces années-là, on va parler de votre enfance en Roumanie, à Bucarest, avec un père féru de littérature qui enseignait la littérature du XVIIIe siècle, une mère grande lectrice.
Et enseignante aussi.
Et enseignante aussi, qui ne vous a pas parlé de son enfance.
Oui, c'est vrai. Je pense qu'elle m'a transmis beaucoup de silence, au pluriel, que ma mère, très petite, a été une enfant cachée pendant la guerre Et elle a quelqu'un dans toute la famille, bah, du coup la mienne aussi a... est morte pendant la Shoah, et ce qu'elle a transmis, au lieu de... C'est vrai que quand on parle de transmission, pour le coup, elle a transmis beaucoup de secrets, et beaucoup de non-dits, et beaucoup de silences.
Comment on fait avec une histoire un peu manquante, à trous, on devient romancière pour ça ?
Un peu. on met des mots qui n'y étaient pas, on essaye de, justement de créer du vivant avec quelque chose qui manque. Mmh. Il y a vraiment ça.
À ce moment-là, Pénélope Bageux, vous, dans les années 80, vous écoutiez... In America, Kim Wilde, phénomène des années 80. Et à ce moment-là, c'est la naissance à Paris.
Voilà, naissance de Pénélope dans une maison. Il n'y a pas trop de bandes dessinées d'ailleurs.
Pas trop. Ouais. Enfin, si, il y avait du Gottlieb.
Il y avait du Gottlieb, il y avait du Tintin.
Ça suffit à planter la graine.
Super ref.
Ouais. Ouais. Il y a du Tintin aussi.
Un peu, mais j'aimais vraiment.
Ouais, bah oui. Ouais. Et toujours pas ?
Si.
Non. On n'est pas obligé d'aimer Tintin.
Petite parenthèse, il y a l'intégrale de Gottlieb là qui ressort. Ouais, il y a la totale Gottlieb. C'est voilà.
Parfait. Noël s'est plié.
Carrément.
On n'est pas obligé d'aimer Tintin.
Si. Bien sûr, je reconnais toutes les qualités de dessin et de scénario. C'est juste que je pense que quand on a raté le coche en lisant pas Tintin quand on est enfant, c'est quand même compliqué adulte de tomber dedans.
Oui. Et enfant, quel dialogue avec les parents, justement, sur leur histoire, d'où ils venaient ? Est-ce que, justement, il y a des silences, des secrets ?
Et je crois qu'il n'y a pas de question de ma part, surtout. Hein.
Ah oui.
Moi, j'étais plutôt... non, mais c'est peut-être que c'est un truc qu'on doit faire quand on est enfant, mais moi, je n'étais pas très curieuse
de savoir.
Ou alors
qu'on sent qu'il n'y a pas de secret et qu'on n'y va pas.
Ouais, je sais pas, le monde des adultes m'intéressait assez peu, en fait, je pense. C'est que ça, j'avais pas envie de savoir leur histoire, ça avait l'air compliqué, il y avait toujours des trucs de il racontait des trucs d'impôts et tout ça, enfin ça m'intéressait pas du tout, quoi.
Donc Tintin rien à foutre, les parents
rien à foutre, l'enfance globalement c'est rien à foutre. Non, mais moi je sais pas, j'aimais plutôt l'imaginaire. Moi je rêvais de trouver des passages secrets dans l'appart, ouais, c'était plutôt ça mon enfance, c'était de trouver des trappes pour trouver des passages secrets, quoi.
En 2014-2015 on fait un saut, Lola Lafont, vous écoutiez Pourquoi cette musique en particulier ?
Oui, j'ai vraiment eu envie de faire passer une chanson pop en roumain ici, parce que je trouve qu'on en entend très peu et puis qu'on imagine...
On n'imagine pas qu'il y ait une pop roumaine.
Exactement, on n'imagine pas qu'il y a du rap, on n'imagine pas tout ça, et il y a ce cliché de se dire, bah oui, ils doivent écouter de la musique folklorique, et c'est vraiment l'Europe méconnue et évidemment, comme j'ai grandi et que c'est mon pays de cœur, mes références sont beaucoup là-bas, musicalement.
Mmh. Et à cette époque-là, c'est la petite communiste qui ne souriait jamais. C'est une autre façon aussi, dans l'histoire du sport, de découvrir ce pays qui est derrière cette grande athlète qui a obtenu le 10 sur 10, hein, c'est la note absolue, c'est Comaneci.
Nadia
Comaneci.
À tous les agrès, c'est ça, le
10 sur 10. Ouais. Une star...
Pas au saut de cheval.
Non, pas au saut de
cheval. Peut-être pas, je ne me rappelle plus.
Ouais, une star en tout cas incontournable, qui était une parfaite inconnue.
Oui, et qui a eu ça, qui était quand même assez fou, c'est qu'elle a rassemblé en pleine guerre froide le communisme et le capitalisme dans la même adoration. Que moi j'ai eu envie de questionner.
Et le bouquin est super.
12, traduit en 12 langues, plus de 150 000 exemplaires, un succès. En 2014-2015, Pénélope Bageux, vous écoutiez. C'était Pouhoui, pardon, l'artiste roumain. On n'avait pas donné le nom, je suis désolé. Là, c'est Weezer avec Back to the Shack. Il se passe quoi dans la vie de Pénélope à ce moment-là, Leïla ?
Eh bien, elle traverse l'Atlantique pour aller s'installer à New York. C'est classe quand on le dit comme ça. Elle part.
Surtout à la nage.
Peut-être un petit peu.
Vous partez pourquoi ?
Je sais toujours pas trop, parce que je pouvais, franchement, parce que c'était possible, parce que j'avais de la promo longue là-bas et que j'avais quand même un peu un rêve d'enfant, comme beaucoup de gens nés dans les années 80, de vivre l'Amérique, et que je me suis dit j'y vais 2-3 ans, et puis après je rentre, et en fait je suis restée plutôt 5, mais c'était super, et je suis très contente d'être rentrée après, donc mais c'était super, et effectivement c'est là-bas que j'ai fait culotter, donc ça m'a bien servi.
Bien sûr, et ce sera encore aujourd'hui
vous repartiriez, vous partiriez tout court aux États-Unis? Est-ce que le rêve des années 80...
Je crois que
j'aurais 80...
pas le droit, surtout. Parce qu'on ne voudrait plus de moi. Non, à l'époque, j'avais eu des papiers très facilement en tant qu'artiste. Et je pense qu'aujourd'hui, l'étau, c'est un petit peu resserré. Puis j'aurais moins envie. Ça me fait moins rêver.
Oui,
ça
paraît que c'est une tannée maintenant.
Ouais, bon, je veux bien le croire.
Oui, mais ça tombe bien si ça fait moins rêver.
Ça tombe bien, on a très envie d'y aller.
Voilà.
Les culottés, pardon si on doit donner un chiffre du résultat de votre succès, pardon d'être très mercantile, mais enfin, combien d'exemplaires ont été vendus?
Je ne sais pas, beaucoup. Mais
c'est gênant de le dire?
Non, c'est pas gênant, mais c'est pas ce qui compte. C'est pas ça qui compte.
C'est impressionné. Parce
c'est
que
le
ça...
message transmis aux filles.
Non, mais moi j'ai entendu
600,
700 000 exemplaires. Ouais, c'est-à-dire, c'est... Bah, voilà, c'est formidable.
Elle a dépassé le million et n'en parlons plus.
Bah,
non, si je dois dire ce qu'il y a de bien, c'est surtout les gens que j'ai rencontrés. Ouais, c'est pas gnangnang de dire ça, mais c'est vrai. C'est que jamais j'avais eu autant de gens et de jeunes gens qui venaient voir ce que je faisais, qui me fabriquaient des petits cadeaux. Ça, c'était super. J'avais l'impression d'être Dorothée.
Et on peut l'écouter en plus. On peut l'écouter maintenant, les culottes.
Oui, en livre audio lu par Marina
et Marina Rollman.
Joué par Marina Rollman, voilà, avec un talent incroyable.
La nuit retrouvée chez Gallimard, Lola Lafont et Pénélope Bagieu signent cette bande dessinée. Déborah Schumann-Antonio nous a rejoint. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes thérapeute conjugale et familiale, sexothérapeute. Est-ce qu'on doit connaître la vie sexuelle de nos parents?
Ah bah non.
Ah bon?
Merci, au revoir.
Je l'avais dit.
Non,
il faut surtout conserver son jardin secret.
Non, mais il y a besoin d'un jardin secret. Je vais faire une réponse un peu de Normand. C'est-à-dire, non, on ne peut pas tout dire à nos enfants, et pour autant, il y a plein de choses à dire à nos enfants. Mais il faut savoir quoi dire.
Je ne suis pas ta mère. c'est un truc qu'il faut. Voilà.
Non, mais typiquement, il y a des sujets qui sont liés à la
filiation. Je précise à ta fille qui écoute l'émission dans la pièce à côté que ceci est une blague.
Oui, mais elle n'écoute pas.
C'est mieux de prévenir pour éviter les traumas.
Bien sûr.
En tout cas, pour les traumatismes, en effet, tout ce qui est filiation, etc. Bien sûr que ça
a du
sens
de le dire. Pour donner des conseils, se dire moi aussi, je suis passé par ce que tu es en train de vivre au moment de l'adolescence. Moi aussi, garçon ou fille, j'ai vécu cette poussée hormonale. Moi aussi, j'ai voulu séduire ou plaire. Enfin, voilà. Autrement dit, livrer 2-3 secrets pour rassurer, en tout cas, son enfant, ça se fait?
Oui, et là, c'est pas des secrets. C'est pas de secret, c'est notre histoire en réalité.
Ouais.
Et là, il faut bien choisir les mots. Et l'idée, c'est pas de rentrer dans le menu détail, d'être cru et même d'être violent dans ce qu'on raconte. C'est-à-dire que je pense que nos enfants, ils sont pas nos psys. Donc, ils ont pas besoin de savoir quand c'est encore un peu dans l'émotion ou dans la douleur. Mais ils ont besoin de comprendre ce qu'on a vécu parce que c'est un miroir pour eux. Donc, je pense que ça a du sens.
Oui, mais dans le genre de secret, par exemple, si un garçon ou une fille se cherche sexuellement, que l'un des deux parents dit bah, moi aussi, j'ai essayé avec l'une, avec l'autre, avec les deux, enfin bref, être comme ça. Peut-être qu'on n'a pas envie de l'entendre de la bouche de nos parents, et peut-être que ça peut aussi rassurer les enfants en disant c'est normal de se chercher ou d'essayer.
Oui, mais il y a une différence entre dire je me suis cherché, et donc oui, je me suis questionné, et raconter l'histoire
bien sûr,
brute.
Non, bien sûr.
Tu vois, il faut que tu arrêtes, tu vas les traumatiser.
Là, on est dans le traumatisme quand même.
Justement, j'ai la vidéo.
Ça, c'était l'autre question, quand on sait qu'Internet garde toutes les images, toutes les traces.
Il n'y a pas de droit à l'oubli,
Non, il n'y a pas le droit à l'oubli. C'est pour ça que
parce que là, les nouvelles générations risquent, entre guillemets, parce que...
Ne connectez pas la caméra.
Là, une soirée d'étudiantes ou d'étudiants où on roule à patins à l'un ou à l'autre, peu importe, encore une fois, où les images sont sur Internet, on sait que dans 20-30 ans, nos enfants pourront retomber dessus.
Oui, mais ça, c'est pas très grave.
Mais c'est ce que j'allais dire, c'est pas très grave. Ça s'explique. L'idée, c'est pas de se justifier auprès de ses enfants, c'est d'expliquer dans quel contexte on est, pourquoi on le fait, et qu'effectivement on a été ados. Maintenant, ce qui est malsain, c'est de raconter dans le menu détail notre vie sexuelle avec notre partenaire ou nos partenaires, où là, les enfants, n'ont pas envie de l'entendre, et puis n'ont pas à l'entendre, puisqu'ils ont besoin de garder une espèce de flou vis-à-vis de nous-mêmes.
Est-ce que les filles posent plus des questions que les garçons?
Alors, oui et non. Oui, parce que...
Vous êtes très normande.
Oui, pourtant, pas du tout. Moi aussi, quelques pieds à terre dans le sud-ouest.
Très bien. Pieds à terre. Elle a plusieurs maisons dans le sud-ouest.
Exactement. Ça marche bien.
Ah ouais. Tous les pires vacances.
Oui, c'est plutôt les filles, parce qu'on les habitue plus, fait, à verbaliser les choses, à poser des mots sur leurs émotions, un peu moins les garçons. Sauf qu'aujourd'hui, dans nos générations un peu plus modernes, les hommes commencent à parler, commencent à poser des questions. Donc c'est vrai que c'est plutôt les filles qui vont s'interroger ou qui vont interroger leurs parents.
Est-ce que c'est nous que ça dérange ou est-ce que c'est les enfants que ça dérange d'entendre les histoires vécues, justement?
Alors, les histoires sexuelles, je pense que ça dérange profondément nos enfants. Ils n'ont pas du tout envie de savoir ce qu'on vit. Ils savent bien qu'on a une vie sexuelle. Ils ne sont pas arrivés par l'opération du Saint-Esprit, donc ils le savent. Mais maintenant,
mais les parents n'ont pas envie de savoir la vie sexuelle de leurs enfants non plus.
Mais bien sûr, voilà. Dans les deux sens. Je pense qu'il y a vraiment cette idée-là, d'être dans une espèce de flou. On n'a pas à rentrer. Il y a une intimité qui doit être respectée pour les parents, mais aussi pour les enfants.
Et est-ce qu'on tolère plus, justement, que sa mère ait eu des histoires par le passé plutôt que son père ? Est-ce que, justement, on est plus dur avec les mamans ?
Je crois pas. Je crois que vraiment, ça dépend de ce qu'on va raconter. C'est-à-dire la manière dont on le raconte. C'est ça qui est compliqué, d'ailleurs, dans le dialogue qu'on a avec nos enfants, c'est choisir les bons mots. Et c'est pas encore une fois de se justifier. Et je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on raconte et de la manière dont on le raconte. Mais non, l'idée, c'est vraiment de se dire à moi, je peux me dévoiler parce que, en effet, j'ai envie de raconter ça parce que ça a une résonance chez mon enfant. C'est pas lui raconter pour tout lui raconter. Encore une fois, c'est pas nos psy.
Non, c'est pour l'aider.
Mais c'est pour l'aider dans des passages compliqués de la vie.
Il ou elle n'est pas seul.
Une histoire d'amour qui finit avec un chagrin d'amour, on peut dire je l'ai vécu évidemment, et comment je l'ai vécu.
Déborah Schumann-Antonio, thérapeute conjugale et familiale, sexothérapeute, propriétaire de beaucoup de propriétés dans les Landes. Merci beaucoup Déborah d'être venue. Courage pour les impôts. Voici Emma Beauchamp. Un hommage ce 11 novembre.
Alors oui, tous les jours, je rends un hommage dans cette émission. Et aujourd'hui, j'ai décidé de rendre hommage au fromage. Un hommage au fromage, quel courage ne pas le faire, c'est dommage. Waouh, pas sûr de ton idée d'intro, Aldelaf. Le fromage, ça pue, mais c'est bon. Voilà, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce concept. Ça pue, mais c'est bon. Il y a des choses dans la vie qui sentent mauvais, mais qui sont bonnes. C'est dingue. Bon, après, je vous avoue que moi, depuis que j'ai un mec, ça m'arrange de fou. J'ai toujours du fromage chez moi. C'est vraiment l'excuse parfaite pour aller teps près du frigo. Oh, chérie, t'as encore oublié de mettre la cloche. le fromage, le concept du fromage, c'est dingue. On prend un truc blanc qui sort du pis de la bête et puis on le laisse pourrir. C'est nickel. Moi, j'ai vraiment de l'admiration pour les gens qui font du fromage. Ce sont vraiment les héros de cette société pour moi. Et je parle pas du Roquefort société. Non, mais FDR. Putain, Oldelaf, je suis désolée, j'ai encore lu ton papier. Non, mais c'est vrai, Nagui, qu'est-ce qu'on attend pour recevoir un fromager ou une fromagère dans cette émission ? C'est pas assez bien pour monsieur Nagui ! Non, mais on reçoit que des gens qui écrivent ou jouent la comédie ici, pas des gens qui font du fromage, et pourquoi pas les deux ? À toi de jouer, mon Nag. C'est maintenant, je t'en prie.
Oui, je sais. C'est ça. Aujourd'hui, je reçois Juliette Dambert de la fromagerie Dambert. Et surtout comédienne, dans le dernier film de la bande à Guillaume Canet, qui s'appelle « Nos vies merveilleuses », dans lequel vous jouez le rôle de leur copine fromagère le village où ils ont leur résidence secondaire. Comment vous êtes retrouvée dans ce film ?
Alors, vous savez, Guillaume est une personne formidable, un vrai humain, avec un gros cœur, mais gros comme une tome de Savoie. Il venait souvent à la fromagerie et je dirais qu'il a vu l'actrice derrière la fromagère.
Guillaume Canet aime le fromage ?
Bah enfin, il y a Guy. Est-ce que Guillaume Canet aime le fromage ? Il est sérieux en plus. Non mais enfin, Guigui adore le fromage, Nagui. Il aime aussi bien le comté que la fourmi Lambert. Et c'est quelqu'un de très éclectique. Hein. D'ailleurs, sur le tournage de son Astérix, il m'avait fait venir pour qu'il y ait toujours du fromage sur la table régie et pas seulement du caca.
On vous compare à Joël Dupuche, son ami ostréiculteur qui a joué dans Les Petits Mouchoirs et dans sa suite. Ça vous plaît ?
Oh ben, c'est un honneur. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Joël. Hein. J'ai eu la chance de faire un réveillon avec lui au Cap Ferré. Oh, qu'est-ce qu'on s'est marré. Oh là là, il nous a fait le show quand il est un peu bourré, si tu le chauffes, il peut déboucher la bouteille de rosé avec sa bite. J'ai vu faire... Pardon, quel caractère cette Juliette. Et c'est d'ailleurs, j'en profite, le premier mot qui vient quand on parle de fromage, le caractère, le plaisir de ces choses qu'on doit apprendre à apprécier. On parle souvent du goût des choses simples, mais là, moi, je vous parle du goût des choses pas simples. Et quand je parle, quand je pense au fromage, je pense forcément aux gens qui le font. Je pense aux agriculteurs. Je pense à ceux qui ont de l'or sous les ongles en guise de terre. Je pense à un des métiers les plus importants du monde. Ceux dont la vie s'articule autour du lever du soleil, de la pluie, des périodes de canicule et des coupes budgétaires. Alors, IL sont sûrement trop occupés à avoir les mains dedans pour nous écouter maintenant, mais c'est à eux que je rends hommage aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.
Merci.
Sur scène, Emma, les vendredis à 21h au théâtre des Mathurins.
C'est vrai.
Tanguy Pastureau, de quoi allons-nous parler dans... Je te réveille.
Non, j'étais en train de rêver au fromage. Je vais vous parler de Nicolas Sarkozy qui est sorti de prison, mais aussi de son ancienne adversaire en 2007, Ségolène Royal, qui revient très fort et qu'on n'oublie pas, bien sûr.
On en parle dans la deuxième partie de l'émission. Lola Lafont, Pénélope Bageux sont nos invités. Elles co-signent chez Gallimard, bande dessinée, La Nuit Retrouvée. Avec Lila Cadeau-Boudin.
avec
bonjour.
Avec Emma Beaujean, avec Lisa Delmoitier, oui. Mélodie Fontaine.
Ah là là.
Qui fait du playback quand je l'annonce. Avec Oldelaf. Déstabilise Pénélope. Avec Tanguy Pastureau, bonjour. Daniel Morat et nos invités, donc Pénélope Bageux et Lola Lafont.
La bande originale. Leïla Kadour et Nagui.
La nuit retrouvée, Lola Lafont, Pénélope Bageux, cette nuit étant peut-être les secrets cachés aussi, qui se mettent en plein jour comme ça, révélés lors d'un échange tard le soir entre la maman et sa fille, et avec un plaisir partagé, même si tout n'est pas totalement dévoilé, à la fois la maman est contente de revivre des moments et de les partager, de pouvoir peut-être enfin les raconter, et la fille de découvrir que sa maman a eu du désir comme n'importe quelle femme, et qu'elle en donne peut-être une version édulcorée, ça c'est à voir, et donc de jouer avec ces deux versions dans la bande dessinée. Mais tout est autour aussi du désir et du partage. Non.
Si, c'est autour du désir et du partage, oui.
Le désir est révélé, le partage, oui. Le partage dans la cuisine, le dîner, oui, oui. Les jeux de famille, les sorties, le sport, le spectacle, où on va ensemble. J'ai l'impression qu'il y a vraiment c'est ce que j'ai retrouvé et ressenti dans des situations que chacun peut vivre dans son coin, quoi.
Bah, moi, j'avais vraiment envie qu'on ait envie de faire partie de cette famille.
Très naturel,
ouais. Quand au début, ils sont tous ensemble, il y a un truc un peu moitié on se vanne, moitié. Moitié, on est quand même tendre, et puis qu'après leur soirée de jeux de société, même si c'est une soirée de jeux de société, donne envie et soit sympa.
Et révèle beaucoup des caractères.
Et révèle beaucoup des caractères. Ça, c'est un peu le défi de ce genre de scène, c'est qu'en fait, elle doit servir à ce qu'on comprenne qui est qui assez rapidement, donc ouais. Qu'on comprenne les dynamiques, qu'on comprenne que la mère arrondit les angles entre ses fils qui sont. Bon, semi-sympa, et sa fille qui est un peu son assistante, quoi. Et puis, quand on remonte dans l'enfance, c'est ça aussi que j'aimais bien, c'était qu'on comprenne les racines de ces relations-là, c'est-à-dire que déjà petite, elle compte sur sa fille pour être, elle lui dit, je compte sur toi,
pour surveiller les garçons.
Ouais. Donc, cette gamine est déjà dans sa case, elle aussi.
Ouais.
Et puis, que ce soit quand même tendre, et puis, même s'ils sont pénibles, ils soient quand même attachants. Et puis, c'est toujours sympa de dessiner aussi des personnages qui vieillissent, de se dire à quoi ils ressemblaient 20 ans avant, il faut qu'on les reconnaisse, mais en même temps, ils ont changé. Donc, ça, c'était un grand plaisir de dessin aussi, de faire vivre une famille, et ça passe aussi par le bazar qu'il y a chez eux, leur chambre, comment ils se comportent à table, des souvenirs de vacances. Voilà, je voulais que ce soit le plus fourmillant de détails.
Très vivant, ouais, c'est ça.
On croit à ces gens.
Et ça, on le crée en bande dessinée avec plein de bulles dans une case aussi, en disant que ça peut parler en même temps ou échanger rapidement. Ouais.
Moi, ça me sort assez vite d'une bande dessinée quand les dialogues sont pas crédibles. Quand on se dit personne ne parlerait jamais comme ça, les enfants ne parlent pas comme ça, les parents non plus. Même quand donc le personnage d'Hélène parle avec l'autre personnage féminin de l'histoire qu'elle rencontre par la suite dans leur dialogue, vraiment en tant que lectrice, moi ça me sort direct comme un truc mal joué, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, on n'y croit pas, jamais elle dirait ça. Donc c'était très important que, même dans la ponctuation, j'étais très vigilante à ce que on les entende, on entende leur voix, on comprenne qui elles sont, quoi.
Est-ce que vous lisez à haute voix, Lola,
Moi j'écris à haute voix, toujours. Donc, je me suis rendu compte de ça. Mais c'est très très bizarre parce que j'avais pas réalisé jusqu'à un certain moment que j'écris tout à haute voix.
C'est pas gênant pour l'entourage.
J'écris toujours seule.
Parfait.
Ou alors avec un chien. Mais en fait, je parle pas très fort, hein, mais j'ai besoin que ça soit complètement rythmique et effectivement.
C'est la musicienne là.
Il y a vraiment un truc de l'écriture qui doit être comme vient de le dire Pénélope. C'est un dialogue pour moi. Quand j'entends quelque chose qui fait écrit dans un dialogue, ou alors c'est une volonté, c'est un peu différent, mais il faut vraiment que ça soit quelque chose, qu'on reconnaisse aussi, quoi.
Et à propos de reconnaître, est-ce que pour mettre en forme ces personnages, leur donner un physique, vous êtes inspiré de personnes existantes, voire d'actrices ?
Alors non.
Ah, j'avais entendu parler d'une Sandrine.
Non, c'est quand on s'en était parlé au début, ouais, on s'était dit, ah oui, la mère, un peu Sandrine Kiberlin, mais la réalité, le test de la réalité du dessin, c'est qu'au bout de deux pages, c'était pas du tout elle, donc on a laissé tomber ça. Ça lui va pas du tout, en fait, c'est pas du tout elle, c'était sûr. Mais, en fait, quand on commence à crayonner, on va chercher un peu des éléments très évidents de visage, on se dit, ok, elle a les yeux comme ça, elle a les cheveux comme ça, mais ça reste assez anecdotique, et en général, ce qui fait que le personnage va exister, c'est plutôt de l'épreuve de l'action, c'est-à-dire commencer à dessiner vraiment l'histoire, et au fur et à mesure, au bout de 10 pages, 20 pages, 50 pages, elle se précise, parce qu'on trouve sa gestuelle, on trouve comment elle se tient, on trouve comment elle tient son café, et c'est ça qui fait que, de l'intérieur, le personnage finit par exister visuellement.
Est-ce que vous avez proposé vos dessins à Lola, justement, en disant, et si la famille ressemblait à...
Ben, en fait, je lui ai surtout proposé le crayonné où elles existaient déjà, c'est-à-dire de dire... Parce qu'en fait, figé comme ça, ça donne pas une vraie idée de ce qu'elles vont être. En revanche, dire... fais pas attention au début du crayonné, je l'ai cherché un peu, mais tu vas voir, page 150, on les tient, quoi. Voilà, on sait. Et l'avantage pour progresser dans l'histoire au moment du dessin, c'est que quand on les tient, justement, et ça, je pense que c'est pareil pour tous les, peut-être les gens qui incarnent des rôles, on se pose plus aucune question sur la façon dont ils se comportent. C'est-à-dire qu'ils existent vraiment. Donc on se dit, ok, elle va forcément faire ça, elle ferait jamais un truc pareil, ça devient une vraie personne, donc c'est encore plus facile de la
C'est vivant, c'est extrêmement agréable, c'est doux, ça nous renvoie à notre enfance, à notre famille, à des soirées qu'on a envie de passer. Et comme l'a dit tout à l'heure Leïla, on a envie d'une suite à cette nuit retrouvée. Lola Lafont, Pénélope Bageux, c'est chez Gallimard, et c'est sorti là, il y a quelques jours à peine.
Presque
c'est
une semaine.
Tout frais. Très bien. Voici Tanguy, passion.
Oui.
Hier, j'étais en train de créer. J'écrivais une chronique, quoi, mais créer, ça fait mieux. Quand soudain, j'ai reçu une alerte info avec écrit « La voiture de Nicolas Sarkozy a quitté la prison de la santé ». Premier réflexe, je me suis dit « Elle aurait dû attendre qu'il soit dedans ». Non, parce que pendant que vous continuez à écouter C'est Jérôme, moi, je suis déjà en 2040. J'imaginais que c'était une voiture autonome, que la voiture s'était dit non d'un volant. On va pas attendre que Pépère y sorte et qu'elle était partie toute seule. C'est que plus tard que j'ai réalisé que Sarkozy sortait de prison, j'ai eu envie d'appeler un ami de droite pour partager sa joie, mais je n'ai pas d'ami de droite. Ça fait 9 ans que je suis sur France Inter. S'il existait encore des tripots, je me serais rendu dans un tripot de Levallois-Perret. J'aurais dit la phrase secrète, Raphaël Glucksmann est une triple bus. On m'aurait ouvert une porte dérobée et la Patrick Balkany serait tombée dans mes bras en disant quelle belle journée. Sinon, toujours à la bande originale, il va bien l'escroc. Et je me serais dit, mais duquel parle-t-il? Mais il n'y a plus de tripot, il n'y a plus que des Starbucks. C'est l'inverse du tripot. Un tripot, on cachait ton identité. Au Starbucks, on crie Tanguy, le latte XXL avec vanille et topine Noël. Et je réponds, monsieur Tanguy, 25 ans de carrière devant des gens qui écoutent le podcast Combini dans des AirPods Pro à isolation sonore. Aujourd'hui, plus personne ne t'entend avec ces casques. J'ai réappris à apprécier la présence des enfants dans les TGV. L'autre jour, à la soirée Télépoche, j'écoutais du Bach pendant que Gilles Verdez me parlait. Mais c'était exquis. Revenons à Sarkozy, il est sorti de prison. Et il voulait écrire un livre, mais il n'y a passé que 20 jours, donc ça va être un tout petit livre. J'ai lu que Sarkozy avait interdiction d'entrer en contact avec Gérald Darmanin. Je ne sais pas si ça a été vécu comme une punition par ceux qui ont pris cette décision, mais ça n'en est pas une. Les mêmes, quand tu as perdu ton morceau de pain dans la fondue, te diraient « Ah, tu as un gage qui est de manger toute la fondue !» Tu répondras « Ok, vous êtes durs les gars !» Enfin, Nicolas Sarkozy ne peut pas quitter le territoire français, ce qui pour nous s'appelle la vie quotidienne, hein, mais pour des gens qui ont ce niveau de vie, là, c'est embêtant. Voilà, donc sur cette affaire, chacun a rempli son rôle, les gens de droite se sont réjouis, les gens de gauche se sont indignés, quel ennui. Mais hier matin, sur la matinale de TF1, il y avait Ségolène Royal. On a oublié cette dame, parce que vous savez ce que c'est, un jour vous faites rire les gens et le lendemain il vous oublie, ça fait pareil avec Patrick Bosseau ou Pete Eric. Mais on oublie qu'en 2007, Ségolène Royal était au second tour de la présidentielle contre Sarkozy. Et c'était une star à ses meetings, il y avait Georges Moustaki, Michel Delpech, ils sont tous morts, elle doit porter malheur. Hein, mais il y avait aussi des jeunes artistes, jeunes à l'époque, Kali, Benabar, Grand Corps Malade, aujourd'hui ça c'est le nom du Parti Socialiste. Et eux sont vivants, donc c'est peut-être pas Ségolène Royal le problème, mais la finalité tragique de tout être. Et hier, cette dame était sur TF1. On lui a demandé ce qu'elle pensait du fait que Sarkozy soit en prison, parce qu'hier matin, il l'était encore. L'actu va vite, vite, vite. Hein, sauf sur LCI, où ils attendent depuis 2 ans l'invasion de l'Alsace par Poutine, et rien. Ségolène Royal a répondu qu'elle n'était pas pour la prison pour un ancien chef de l'État. Et elle a eu cette phrase, magique, hein, comme tout ce qu'elle dit depuis qu'elle parle, une meilleure sanction que la prison aurait été l'inversion des résultats. Là, sur TF1, il y a eu un silence, hein, le temps que tout le monde en plateau s'approprie son raisonnement. C'est une torsion mentale. Moi, vous me mettez face à Royal, je convulse. En fait, elle dit que Nicolas Sarkozy, ayant bénéficié d'argent en plus, il y avait
avait tricherie, puisqu'il pouvait tirer des millions de prospectus quand elle était en train d'aider à vendre des carottes sur les marchés pour faire sa pub avec la même tunique que Raël. Comme il y a eu tricherie dans sa tête, cet espace inexploré. Hein, même Thomas Pesquet, on lui dit c'est la galaxie ou la tête de Royal, il a répondu la galaxie sera plus simple. Dans sa tête, elle n'a pas perdu un raisonnement à la Trump. Elle va envoyer ses fans à l'assaut de l'Assemblée. Heureusement, aujourd'hui, bon, ils sont trois. Alors, personne n'a bien compris si c'est à l'époque qu'il aurait fallu faire partir Sarkozy pour la mettre elle, mais l'affaire n'était même pas sortie, ou si elle voudrait qu'on la case à l'Élysée, là, maintenant, pour réparation. Je crois qu'elle-même, quand elle a dit ça, ne savait pas ce qu'elle voulait dire. Et le problème de TF1, c'est que c'est filmé, ce qui de tout temps ternit l'image de cette chaîne. Les gens finissent par réaliser que votre socle psychologique est fragile. Pourquoi pensez-vous que je fais peu de télé? Oui, parce qu'on m'invite peu. Mais aussi parce que j'ai peur de raconter n'importe quoi. À France Inter, je suis payé pour faire ça, mais il y a des médias qui ont une éthique. Après, moi, j'ai pas trop envie de moquer plus de Madame Royal. Déjà, tout le monde le fait, c'est facile. Et puis, donc je vais prendre son parti. Voilà, on va faire un club de personnes un peu barge. Il y aura Ariel Dombal, Elon Musk, Julie Depardieu, Axel Rose et René Lataupe. Et j'ai envie de dire chiche. Voilà, on annule la présidentielle 2027, ce qui permet à Jordan Bardella de prendre 6 ans de plus et pour la prochaine échéance d'avoir terminé sa puberté. Et on accorde à Ségolène Royal le droit de devenir présidente, à vie d'ailleurs. Parce que les élections, ça nous crispe, ça nous divise. Regardez en Corée du Nord comme le peuple est uni. Hein, ils vont dans le même sens, celui que montre du doigt Kim Jong-un. Même quand il lance juste la balle à son chien, il y a 4000 personnes qui courent derrière en hurlant non seulement notre leader est formidable, mais en plus son chien Kim Jong-rex est splendide. Ségolène Royal 2027. Franchement, faisons-le. Kali, ministre de la Culture, ouais. Leïla Kaddour, ouais. Ministre de l'Intérieur. Mmh. Elle partage avec Ségolène Royal le même amour du Poitou et de la fraternité. Ouais. Et c'est vrai qu'on devrait toujours faire ça. Pourquoi avoir supplicié Ravaillac alors qu'il suffisait de ressusciter Henri IV? Réparons l'avenir contrarié de Ségolène Royal et faisons-le ensemble, main dans la main, en tunique. Donne-moi la main, Oldelaf. Tu vas la voir, ton désir d'avenir. Tu vas la voir.
Yes. Merci.
Tanguy sur scène dans le Nord, à Lille, au théâtre Sébastopol.
La nuit retrouvée, signée Lola Lafont et Pénélope Bageux chez Gallimard, d'autres événements culturels, Leïla.
On va parler d'un tirage au sort organisé par la mairie de Paris, un tirage au sort qui pourrait vous permettre d'avoir un voisin célèbre. De quoi s'agit-il d'après vous?
Cimetière.
Absolument, Daniel, cimetière. Il y a 30 monuments funéraires à vendre à condition de s'engager à les restaurer, à les rénover. Il y en a 10 au Père-Lachaise, 10 au cimetière du Montparnasse et 10 à Montmartre. Des tombes à l'abandon, donc plutôt que les laisser comme ça, autant permettre à des gens d'accéder à ces concessions, parce que c'est difficile intramuros d'accéder à une concession à Paris maintenant. Et puis c'est l'occasion de reposer non loin d'une star, puisque ce sont souvent de vieilles et ancienne concession. On peut être à côté de Dalida, de Jim Morrison peut-être, en tout cas non loin. Alors certaines personnes trouvent ça charmant, d'autres plus embêtants parce que se disent que c'est un voisinage un peu bruyant, parce qu'il va y avoir beaucoup de visites et donc on ne pourra pas vraiment...
On va te marcher dessus pour accéder à la tombe.
Voilà, voilà.
Notamment Jim Morrison, toutes les sépultures à côté sont graffitées.
Et ben oui, ouais. Voilà. Donc c'est un peu éventuellement un fléau pour les familles, mais là, disons que si vous n'êtes pas à côté de Jim Morrison, peut-être que si vous êtes à côté de Truffaut ou de quelqu'un d'autre qui déclenche un peu moins les foules.
Ouais,
voilà.
Déco,
vous allez avoir accès quand même à une concession dans Paris si vraiment c'est votre vœu le plus cher, parce qu'ensuite on peut bouger, bien sûr.
Enterré dans les Landes.
On peut aller dans les Landes. Alors je vais pas vous demander vous où vous souhaitez être enterré. Je vous demande votre rapport au cimetière. Votre rapport au cimetière en général. Est-ce que c'est à Paris? Moi j'ai découvert qu'à Paris c'était un lieu de promenade, un lieu de visite, ce qui moi provincial m'a semblé très étonnant quand j'ai débarqué à la capitale.
Il y a des guides
qui organisent des visites. Ouais. On sait que c'est un endroit où il y a beaucoup de relations qui naissent, des relations amoureuses aussi, des rencontres dans les cimetières.
Ah, oui, Nagui.
Oui.
Quoi?
J'ai jamais fait un petit date dans un cimetière.
On a besoin de lutter contre la solitude.
Nagui, hier soir, la soirée, c'était dans un cimetière.
C'est quoi vos rapports au cimetière ou ce que vous projetez, que ce soit d'un point de vue graphique ou littéraire, sur les cimetières?
Le Père Lachaise, c'est assez spécial, parce qu'il est très très beau, il y a des arbres incroyables. Moi, il se trouve que j'ai mon père, mais moi, je n'ai vraiment pas l'impression, je suis assez en paix avec l'idée que les morts ne sont pas dans les cimetières.
D'accord.
Et que donc, c'est pas là. Les absents sont vraiment là où on les évoque, pour moi.
D'accord.
Ils sont vraiment dans... Mais pas au cimetière. Donc, ça peut rester un...
J'adore cette idée, ouais.
Un lieu de promenade, après quelques années, je pense, qu'il peut être beau.
Ouais. Laisser le temps passer. Oui, et oui. La tristesse, pas s'évaporer, mais en tout cas, prendre un peu de distance avec.
Et c'est pas là la présence, quoi.
Et vous, c'est un lieu où vous allez donc avec plaisir.
Peut-être pas exagérer. Ouais.
Mais
par exemple, moi j'aime bien le Père Lachaise parce qu'il y a Musset. Oui. Et que, en fait, c'est très très beau parce qu'il y a un saule pleureur. Et c'est vraiment un endroit, je trouve, hyper apaisant de cet écrivain qui est là avec l'arbre qu'il a voulu. Ouais. Et je trouve ça très très beau.
Et vous, Pénélope ?
Moi, ma famille est enterrée dans le sud-ouest, donc de toute façon, je risque pas d'aller beaucoup me balader. Mais quand j'étais ado, j'étais gothique, donc voilà. J'ai écumé tous les cimetières de Paris, évidemment, dans ma grande mélancolie, avec mes cheveux devant mon visage.
Vous avez gardé votre rat ?
C'est pas cette gothique-là.
Empaillée. Et non, je trouve que le plus joli, c'est le cimetière du Montparnasse.
Mmh. Ah oui.
La trop jolie tombe.
C'est Gainsbourg, je crois, qui est à Montparnasse. Je crois que c'est Gainsbourg qui est enterré.
Oui, c'est parce que je suis allée voir, mais non, il y a la double tombe d'Agnès Varda. Enfin, c'est très beau.
Agnès Varda Demi, c'est ça, ils sont
leur tombe des amoureux, Varda Demi, là, c'est si beau.
Ah oui, je connais pas le
cimetière. Maroc au cimetière.
Ouais. ça sert aussi à ça, cette chronique. Autre question.
Dans 10 minutes, si on allait tous au cimetière.
Allez, on cherche un auteur, David Cornwell, c'est sa véritable identité. Il est connu pour ses romans. Il est mort en 2020. Ses romans, des romans d'espionnage. C'est un ancien agent secret.
Ian Fleming ?
Non. Et on publie pour lui, hein, puisqu'il n'est plus, sa correspondance dans l'intimité d'un espion.
Philippe Roth ?
Non, il écrit, en revanche il a une correspondance avec Philippe Roth, c'est intéressant, on découvre des extraits dans les papiers qui sont sortis cette semaine.
Très connu.
Un Britannique, ouais, c'est le maître du roman d'espionnage.
John le Carré.
Absolument, John le Carré, bravo, Tanguy Pastureau, John le Carré. Donc on découvre l'intimité de cet homme qui avait en effet une correspondance avec d'autres auteurs, pour soit par amitié, soit pour les remercier d'avoir fait un compliment sur ses propres livres, avec des metteurs en scène, avec Kubrick notamment, toutes les personnes qui ont pu vouloir adapter ou véritablement adapté un de ses romans, et aussi des acteurs. Et on découvre donc dans ce livre publié au Seuil tous ces échanges-là. C'est une façon aussi d'aborder un auteur différemment. Vous, Lola Lafont, comment est-ce qu'on peut apprendre à vous connaître autrement que dans vos livres ?
Oh là là, pas en lisant mon journal, parce que...
Vous avez un journal intime ?
Ah oui, je tiens mon journal depuis que j'ai 7 ans. Mais
sans y déroger.
Ah bah si, parce que j'écris pas tous les jours. Mais en fait, c'est vrai, c'est un peu, c'est très encombrant. Je sais plus comment ranger tous ces cahiers.
Combien de volumes surtout ?
Mais c'est monstrueux.
C'est encombrant et en même temps, on peut pas vraiment s'en débarrasser parce que
non, on peut pas parce que c'est.
Ni l'arrêter.
Ben oui, puis c'est très intéressant le journal parce que si vous relisez une partie de votre vie, vous allez à la rencontre de qui vous étiez. À la fois, c'est complètement vous et à la fois, c'est plus tout à fait vous.
Oui.
Donc c'est très intéressant et puis ça permet de pas se mentir sur ce qu'on a ressenti.
Ça pourrait être oublié un jour, non ?
Quand je serai morte au cimetière ?
Non, non.
Je sais pas si ce serait très intéressant, en fait.
Et donc, comment on apprend à vous connaître ? Si c'est pas par ce journal, par vos livres, mais au-delà de ça, comment on accède à une autre Lola Lafont ?
Ah ben, je sais pas, en travaillant avec moi. je pense qu'on apprend à me connaître comme ça, en partageant des moments. Pénélope parlait de partage, c'est quelque chose qui m'est essentiel. En faisant de la danse, en travaillant, moi j'aime vraiment l'idée de collectif.
Et vous, Pénélope, comment... Il y a un journal intime aussi. Alors, je sais que dans les strates, déjà, on avait des souvenirs de l'adolescence. Il y avait déjà des traces.
Moi, j'ai longtemps tenu mes journaux en dessin, mais plus parce que c'était ce qui me paraissait le plus facile et le plus évident pour raconter des choses, notamment quand il n'y avait pas beaucoup de mots. Mais je ne sais même pas où ils sont. Vraiment, je suis la pire archiviste, je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus. Énormément de respect pour mon propre travail.
C'est un trésor, quoi.
J'ai tort. Il faudrait qu'à partir de maintenant, je sacralise plus les choses que je fais.
Oui.
Mais en tout cas, je détesterais que quelqu'un le lise. Ça, c'est certain, même après ma mort, pitié. Parce que je pense que vraiment, le niveau de réflexion...
C'est plus ou moins que chanter en direct sur France Inter.
Il n'y a pas pire que chanter en direct sur France Inter. Je peux en dire que je m'en fous, c'est bizarre.
Quels sont les projets, Pénélope ?
Oh là là, je peux parler de rien, mais j'ai fait tellement de choses. Je vais faire tellement de choses l'an prochain.
Mais dans le domaine de la bande dessinée ou dans des domaines autour ?
Des livres.
D'accord.
Voilà, je vais faire plein de choses dans le domaine de à part le travail. Je vais aussi faire plein de trucs, mais ça va moins vous intéresser, je pense.
Et vous, Lola, le théâtre ?
Oui, je suis en train de terminer une pièce de théâtre qu'on verra en novembre au Théâtre du Rond-Point. Pour 5 personnages. C'est une super première expérience d'écriture différente.
Et à haute voix, j'imagine que vous écrivez, c'est-à-dire que comme la musicienne, comme un chef d'orchestre va répartir.
Oui, là je fais les 5 chez moi, ce qui est... Ouais. J'ai l'impression d'avoir des... Pardon pour les comédiens qui vont jouer dedans, mais moi j'ai l'impression quand je l'écris d'avoir des Playmobil, et je m'amuse énormément.
Et un mot peut-être, Pénélope, on ne vous verra pas en Angoulême. En janvier. Non, on n'y verra pas, effectivement, comme beaucoup d'autrices et beaucoup d'auteurs, ouais. Je pense à l'appel d'un grand mouvement de boycott, parce que les conditions pour que le festival se déroule bien n'ont pas été réunies, puisqu'on y avait une forte demande de la part de tous les acteurs et actrices du milieu du livre pour demander un renouvellement de l'équipe qui est gestionnaire de ce festival, qui est en place depuis très longtemps et qui vient d'être renouvelée au terme d'une discussion pas extrêmement claire, pour la même chose encore pour 10 ans. Et il y avait une forte... Ça avait été annoncé et menacé, le fait qu'il fallait vraiment qu'il y ait du changement. Il n'y en a pas. Donc, comme ça se fait un peu au mépris des autrices, des auteurs, mais aussi des visiteurs, oui. Parce que c'est un festival qui a besoin de changer des choses dans sa façon aussi d'accueillir le public. Malheureusement, comme on n'a pas trouvé d'autres solutions et qu'il faut bien se faire entendre, voilà.
Et puis, puisqu'on parle de bande dessinée et qu'on est fan de Gottlieb, c'est cette semaine, je crois, vendredi, que sortira donc le premier tome de l'intégrale Gottlieb chez Dargo et Fluide Glacial.
Excellent.
Référence. Ouais. Non, mais Marcel.
Et Tintin
Gottlieb,
aussi dans grosse, la foulée. Et... Non, mais je veux pas que ça devienne un truc de Tintin bashing.
Non, mais non, pas du tout. Mais moi, j'aime pas Tintin non plus.
Hein, ouais, moi non plus. Ouais. La nuit retrouvée, c'est chez Gallimard, et ça, on a aimé. Lola Lafont, Pénélope Bagieux, co-signe cette œuvre. Des excuses à présent. Daniel Morin.
Bien sûr, désolé pour nos fidèles auditeurs qui ont été étonnés, choqués, écœurés même par le côté engagé, militant de l'émission de ce matin, et que la nouvelle version du jeu hôtel est moins bien que l'original, et que c'est trop cool de pouvoir une bouteille de vin avec sa tute. Voilà, c'est ce qu'on appelle une émission participative. Hein. Si la liberté vous dérange, n'en dégoûtez pas les autres, les amis. Désolé pour tous nos auditeurs politiquement corrects, politiquement audacieux, qui aimeraient vraiment une candidature de notre charcutière Boutreau. Alors, mais surtout qu'elle a toutes ses chances, hein. Elle est vraiment raciste, elle est misogyne, elle déteste les végétariens, elle adore Holdolaf. Avec un profil comme ça, on ne peut pas exclure une bonne surprise dès le premier tour. Désolé enfin pour tous ceux qui imaginaient qu'une collaboration artistique, c'était des rencontres de travail, des échanges, puis du travail à nouveau, puis encore des échanges, etc. etc. Eh ben non, vous avez entendu Pénélope Bagieux, tout se décide à l'apéro. Alors, faut arrêter avec cette phrase, avec modération, stop. La modération, ça bride la créativité. Et à présent, il est 12h29, je vous laisse, j'ai rendez-vous artistique au bar PMU.
Merci Lola, merci Pénélope, bravo, merci. Surtout pour la nuit retrouvée chez Gallimard. Demain, Alexis Michalik et Florent Père seront nos invités pour parler des producteurs, le succès de la comédie musicale au Théâtre de Paris.